Alors, nous sommes de retour. Il y a eu beaucoup de mots dans une conférence de presse, c'est normal. Le gouvernement, quand il fait une conférence de presse, se doit d'enrober et de vendre un peu sa marchandise. Je comprends parfaitement ça. Là, je demandais à mes prochains invités d'essayer de simplifier les réponses pour qu'on comprenne bien concrètement qu'est-ce qui est mis en place puis qu'est-ce qui ne l'est pas complètement. Je suis premièrement avec Sonia Etier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, Madame Etier.
Bonjour.
Êtes-vous satisfaite de cette conférence de presse du ministre Roberge?
Je pense qu'on peut vraiment accueillir positivement là, les mesures qui ont été annoncées, là, parce que, vous savez, on avait une certaine crainte qu'on soit encore à la gestion à la petite semaine ou aux deux semaines. Là. Mais lorsque le ministre de l'Éducation nous a annoncé, c'est un plan jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais aussi même du travail avec les partenaires là pour déjà planifier l'année prochaine, l'année scolaire 2021-22. Alors, moi, je pense que ça va être accueilli très positivement dans le milieu. La deuxième chose que moi, je trouve très importante, c'est que le ministre a vraiment considéré la question des apprentissages en faisant en sorte que le premier bulletin soit un petit peu retardé. Deux semaines, c'est pas beaucoup, mais je pense que ça va être bien accueilli.
Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait eu besoin de plus? Parce que les difficultés des enfants sont beaucoup plus graves que quelque chose qui peut se rattraper en deux semaines. Là.
Alors, je comprends tout ça. Toutefois, je pense qu'il faut lier ça avec le fait que le premier bulletin va avoir moins d'importance dans l'appréciation de la note là, pour toute l'année scolaire. Et ce sera le deuxième bulletin dont on augmentera là, la valeur. Autrement dit, les élèves vont avoir des chances de se rattraper puis au final, bien, à réussir leur année scolaire. Fait que je pense que ça, c'est très bien. Et aussi, ce que le ministre de l'Éducation nous a dit, c'est qu'il va envoyer un document au personnel pour que tout le monde soit à même heure. Là. C'est quoi les apprentissages importants que tous les élèves doivent connaître cette année pour réussir leur bulletin?
Est-ce qu'il y a une liste de priorisation, par exemple, telle matière versus une autre?
Ben, je ne sais pas si ça va aller à une telle matière ou une autre, là, mais c'est surtout, par exemple, dans l'apprentissage du français, qu'est-ce que je dois absolument donner comme matière aux élèves, concentrer les apprentissages pour que les élèves soient capables de passer à par exemple, l'élève est en deuxième année du primaire, soit capable de passer en troisième année l'année prochaine, et réussir les apprentissages qu'on doit faire en troisième année. Fait que ça, je pense que c'est vraiment très important.
Dans l'ensemble, vous êtes plutôt positive.
C'est positif. C'est sûr qu'on va suivre tout ça. Puis
oui, il faut développer après ça. Il faut ouvrir les documents, il faut les examiner, il faut tout ça, il faut voir ce que ça donne comme ça. Concret sur le terrain. Puis ça, c'est vos professeurs qui sont sur le terrain qui vont pouvoir nous en parler en premier. Les enfants parlent peu, c'est ça l'affaire.
Exactement. Il y a le personnel enseignant, mais il ne faut pas oublier, là, on n'a pas parlé de santé mentale, on n'a pas parlé de difficultés spécifiques d'apprentissage, mais nos professionnels, là, nos psychoéducateurs, nos psychologues, nos techniciennes en éducation spécialisée, c'est une équipe, hein? C'est un milieu de vie, l'école.
Oui, absolument.
Et, que ce soit au primaire ou au secondaire, à l'éducation des adultes en SP, je pense que.
Mais déjà, Mme Etier, moi, je trouvais qu'il y a manqué de ce personnel-là avant. Là, évidemment, on comprend qu'on est en COVID, ça va être encore plus difficile. Je vais vous garder avec moi, mais je vais inviter aussi à se joindre. On va s'imaginer une belle petite table ronde, là, entre nous trois. Mme Marois Risky, qui est, entre autres, critique en matière d'éducation pour le Parti libéral. Bonjour, Mme Risky.
Bonjour à vous deux.
Bonjour. Alors, je vous dérange cette semaine, là, c'est important, là. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça?
Mais je disais mon propos en deux. Vous vous rappelez, on se parlait en début de semaine suite à ma lettre que j'ai adressée au ministre de l'Éducation.
Oui.
Du côté là, pédagogique, nous, le 3 décembre, on a déposé là, une demande officielle de faire annuler les épreuves ministérielles. Alors aujourd'hui, il répond un mois plus tard de façon positive. On a demandé en octobre de l'aide supplémentaire du tutorat, de faire appel aux étudiants collégiaux et universitaires. Alors, je suis contente qu'aujourd'hui, ça a pris du temps, mais enfin...
Oui, mais ça prend un peu de temps, je suis d'accord, mais je crache pas dans la soupe, moi. Quand ça arrive, je suis content.
Ça, exact. Alors, on est content, ça arrive, tant mieux. Maintenant, si vous me permettez, je vais aller à la grande question, la qualité de l'air. On est en urgence sanitaire, donc c'est ça ma priorité, c'est de m'assurer que oui, les enseignants, les élèves, tout le personnel de l'école sont aussi dans un milieu qui est en sécurité. Le rapport de l'INSPQ, là, il y a quand même deux constats là-dedans qui sont importants. Premièrement, oui, il y a une transmission qui est faite par de façon aérosol, c'est-à-dire là, qu'on peut voir que c'est pas quelque chose là, qui est pas négligeable. Là. Alors là-dessus, moi, d'entendre, là, pour être très précis, là, il dit le risque de transmission du SARS-CoV-2 là, est augmenté dans les espaces restreints qui sont mal ventilés, à forte densité d'occupants et lorsque la durée d'exposition est prolongée. C'est pas mal la définition d'une classe. Ça.
C'est exactement, alors, mot pour mot, les notes que j'avais prises.
Alors, vous comprendrez. Et maintenant, les données expérimentales et épidémiologiques disponibles soutiennent une transmission par aérosol à proximité, c'est-à-dire à moins de 2 mètres. C'est pas mal, encore une fois, une classe. Si vous avez fait un tour dans une école secondaire, c'est bondé d'élèves. Alors, moi, aujourd'hui, quand j'entends le docteur Mancé nous expliquer que ça peut être dangereux, que ça peut être bruyant, ça fait du bruit, un purificateur d'air, je comprends, là, mais on nous a donné...
Un bruit limité, là.
Oui, mais honnêtement,
c'est pas si gros
là,
que ça. Si on laisse l'été les fenêtres ouvertes, on entend les autos passer. Beaucoup plus que le purificateur d'air. Là.
J'ai été prof à l'université. Quand je laisse ma porte ouverte de classe, je sais que ça va faire un petit bruit. Alors, je sais qu'entre protéger mes élèves ou mes étudiants, je vais ouvrir la porte, même si j'ai un désagrément du bruit. Moi, si vous me posez la question, Mme Grisky, est-ce que vous préférez avoir un purificateur d'air qui fait un peu de bruit, qui peut potentiellement protéger vos élèves, ou vous allez dire non, je n'ai pas de bruit, je vais choisir le purificateur d'air au lieu d'avoir un petit bruit. Puis, vous savez quoi? Les écoles privées ont fait le choix d'acheter des purificateurs d'air. Les écoles anglophones qui ont encore des commissions scolaires ont fait le choix d'acheter des purificateurs d'air. Moi, aujourd'hui, là, ça ne passe pas.
C'est parce qu'il semble dire que c'est inefficace. Mais là, moi, j'ai besoin de données. Ça, c'est juste mon histoire personnelle. J'ai dû désinfecter une maison pleine de moisissures. Alors, évidemment, j'ai fait venir des experts. Il y a la taille des microns. C'est comme ça que ça se mesure. Mais il y a toutes sortes de purificateurs d'air. Il y a les petits simples, simplement, pour la fumée de cigarette et tout ça. Mais il y en a avec des filtres EPA. Les filtres EPA, ça, c'est vraiment, là, on s'en va dans très, très, très peu de microns, dans vraiment l'infiniment petit qui ne passe plus parce qu'on ne peut pas décontaminer puis laisser passer des particules qui ont plusieurs microns au travers parce que sans ça, c'est à recommencer tout de suite après. Alors,
mais ça, vous faites référence à des filtres ultra performants. Et si vous me permettez, pour que tout le monde nous comprenne bien, là, je suis d'accord que lorsque j'entends le Dr Perron qui dit qu'un purificateur d'air qui est mal installé, bien, c'est sûr que ça peut être néfaste. Mais parlons par exemple des avions. Les purificateurs d'air sont bien installés dans les avions, donc c'est sécuritaire d'embarquer selon ce que les gens disent. Mais moi, je regarde la chancelière allemande. Elle a non seulement commandé des purificateurs d'air, il y avait un plan d'aménagement dans la classe pour installer aux bons endroits les purificateurs d'air. Alors, à place de toujours nous parler des dangers, dites-nous comment bien le faire.
Est-ce que vous croyez que le parce que moi, ce qui me... Je l'ai souvent dit, puis bon, c'est là-dessus qu'on me trouve le plus chialeux. Au refuge, on est ravis, tout le monde est ravi de se lever le matin pour ramasser les enfants qui ont trop souffert, puis qui, là, deviennent plus vieux. Mais est-ce qu'on pourrait arrêter d'en fabriquer? C'est ce qu'on demande, c'est ce que tout le monde demande dans le milieu communautaire. Donc, la détresse des enfants là-dedans est extrêmement préoccupante. Est-ce que de juste repousser le bulletin de 2 semaines et donner moins d'importance au premier bulletin, est-ce que ça vous trouve suffisant? Est-ce que vous trouvez ça suffisant pour... Parce que moi, j'ai l'impression que quand on fait ça, on fait juste pelleter par en avant, mais on pèle devant l'élève qui, lui, voit devant lui une montagne infinie grossir et continuer de grossir.
Effectivement, puis un examen à 40% ou un examen à 60%, quand on n'a pas appris toute la matière, c'est vraiment néfaste pour un enfant. Je crois qu'on doit se concentrer cette année sur les apprentissages essentiels et mettre des mesures extraordinaires pour aller chercher justement l'enfant que lui n'aura peut-être pas les outils, ni même, par exemple, des fois même le parent pour l'aider. Alors là-dessus, oui. Quand dans la lettre qu'on a adressée lundi au ministre de l'Éducation, ouvrir des bibliothèques, faire du tutorat, avoir au fond un body, comme dirait le professeur Régis Royer, c'est-à-dire d'aller chercher quelqu'un.
Comme les grands frères.
Exactement, un grand frère, une grande sœur qui va tenir jusqu'au bout. Puis là-dedans, on a besoin, oui, des enseignants, mais n'oublions pas tous nos organismes sociaux communautaires qui ont toujours été présents pour justement s'assurer de ne pas en échapper.
Madame Risky, est-ce que vous avez encore quelques minutes à me consacrer ou évidemment... Oui. Bon, alors je vais prendre une pause puis je vais revenir. Je rappelle à tout le monde, on est toujours avec Sonia Etier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec, et Marois Risky, qui est critique en matière d'éducation pour le Parti libéral. Et on va revenir avec quelqu'un d'autre tout de suite après la pause. Alors, je vous rappelle qu'on discute de la conférence de presse du ministre de l'Éducation, M. Roberge. On est toujours avec Sonia Etier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec, et Marois Risky, qui est critique en matière d'éducation au Parti libéral. Mais je sais très bien que tous les parents nous écoutent en ce moment puis espèrent de nous un exercice qu'on va faire de simplification, évidemment. Une conférence de presse, c'est normal, on annonce quelque chose, on l'enrobe. Je ne dis pas qu'on l'embellit, mais en tout cas, on l'enrobe puis il y a beaucoup de mots dedans. Alors, nous autres, on veut le moins de mots possible, que ça soit le plus précis possible. Et donc, j'ai voulu parler à quelqu'un sur le terrain. On a avec nous Simon Landry qui se joint à nous. Alors là, on est quatre en ce moment. Simon Landry, qui est enseignant au secondaire de la région de Montréal. Bonjour, M. Landry.
Bonjour, M. Bigra. Bonjour, Mme Risky, Mme Etier également.
D'abord, merci pour votre travail. C'est vous qui êtes en première ligne. Là, on vous remercie pas assez, je trouve. Qu'est-ce que vous considérez qui est la plus grande détresse de nos jeunes en ce moment?
La détresse de nos jeunes se vit actuellement d'une façon très simple. Puis j'avais eu la discussion avec votre collègue, Mme Normando, durant le congé des fêtes. Nos jeunes ont besoin de normalité. Donc, c'est sûr que d'être à l'école, d'être en classe, c'est ce qu'ils ont le plus besoin. Mmh. Et ça, en tant que tel, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, ils vont avoir besoin d'autres aides par rapport à l'aide académique, l'aide psychologique. Et ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on débloque des ressources pour ça.
L'accompagnement, c'est très, très bien. Ça.
Oui, la question étant maintenant, où est-ce qu'on va trouver tous ces gens-là? J'ai entendu M. Robert, je le parlais justement de sa plateforme de recrutement. Donc, on peut juste espérer qu'on va être capable de trouver assez de gens pour apporter de l'aide.
Oui, parce que ce que dit
les jeunes, ils ont besoin d'une normalité.
Ce que dit le ministre, c'est qu'on espère qu'il y a des gens qui vont venir du milieu cégep universitaire et des retraités. Moi, je peux vous dire, des retraités de l'enseignement, il n'y en a pas beaucoup qui veulent revenir. Ils sont un peu épuisés.
Non, ça, effectivement, je suis d'accord avec vous. Par contre, les étudiants universitaires, je pense que si on s'activait rapidement, il y aurait probablement une façon d'aller les chercher en échange, par exemple, bon, non seulement de les payer pour leur temps, bien sûr, mais peut-être qu'on serait capable de leur accorder des crédits universitaires pour le travail de tutorat qu'ils font sur les étudiants qui sont dans le milieu de l'enseignement, ceux qui sont aux facultés d'enseignement.
Oui, leur on fait des stages, généralement. On fait des stages. Ça peut en être un.
Oui, effectivement. Ils font des stages, mais juste le tutorat pourrait être considéré également comme une forme de stage. On leur accorde un certain nombre de crédits et ça permettrait à ces élèves-là de s'exempter de certains autres cours qui sont peut-être moins appropriés à leur formation professionnelle actuelle.
Moins nécessaires.
Donc, peut-être que ces étudiants-là seraient motivés à aller participer à l'effort collectif si on leur disait non seulement on va te rémunérer, mais en plus, on va te reconnaître des crédits d'université, un peu comme quand tu fais tes stages. Peut-être que là, on serait capable d'aller en chercher un plus gros nombre. Mais ça, évidemment, il faut que ça se fasse dans les prochains jours, prochaines semaines, pas rendu au mois de juin.
C'est toujours long. C'est pas à la fin de l'année, effectivement. Madame Risky, qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion-là? Considérez ça comme des stages pour les étudiants en éducation à l'université.
C'est exactement la demande que j'ai faite en octobre. J'ai proposé qu'on ait ce qu'on appelle au Québec les cours d'éducation citoyenneté. Au fond, on demanderait aux étudiants collégiaux et universitaires et on pourrait leur créditer une partie de cours ou même carrément un cours au complet. Mais ça peut prendre quand même un certain temps de mettre en place un nouveau cours. Alors, c'est pour ça que j'ai aussi demandé aux professeurs universitaires et collégiaux qui, eux, ont l'attitude pour remplacer une évaluation par un stage en pratique. Et ça, je pense que dès maintenant, les profs universitaires et collégiaux, on vous le demande, allez-y. Attendez pas un programme spécial pour ça, pour agir dès maintenant.
J'aime tellement ça quand nos politiciens puis nos gens sur le terrain sont d'accord. Ça, c'est une belle chose. J'adore ça quand ça se passe. Monsieur Landry, est-ce que le report des bulletins et tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant pour vos élèves en difficulté?
Ben, il y a deux aspects. Le premier aspect de revoir les ratios, les pondérations des bulletins, ça, on peut pas être en désaccord. Sachant ce qu'on vit depuis la rentrée scolaire, le nombre de classes qui ferment et tout, je pense que revoir la pondération, c'est une bonne chose en soi. Par contre, je vous dirais qu'il y a une certaine grogne là, que je vois parmi mes collègues d'avoir repoussé à nouveau la remise des bulletins, parce que, dans le fond, quand on s'est fait annoncer là, le déplacement de la remise de bulletins, on a beaucoup de collègues, surtout quand on a annoncé les fermetures d'école avant les fêtes et après, qui se sont dépêchés de faire leurs évaluations avant le congé des fêtes, parce que on sait qu'évaluer à distance, c'était pas évident. Et là, on repousse encore, donc on a travaillé un peu dans le vide. C'est un peu dommage, mais c'est des bonnes nouvelles en soi.
Oui, en tout cas, on avance. Merci beaucoup, M. Landry. Passez une belle journée.
Merci, M. Bira.
C'est Simon Landry, enseignant au secondaire de la région de Montréal. On remercie Marois Risky, critique libérale en matière d'éducation, et Mme Sonia Hittier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Merci à tous d'avoir aidé aujourd'hui. Moi, c'est ma dernière émission. Ben, écoutez, prenez soin de vous. Je pense à vous. À bientôt.